Bonjour aux éditeurs de Radio Shalom. Au micro, Ilan Rosanquier, qui est heureux de vous présenter une nouvelle émission de Chronique pour la paix. Aujourd'hui, c'est Tisha B'Av, qui est devenu au fil du temps, comme chacun sait, le symbole et le signe d'avertissement des ravages que peuvent provoquer la guerre fratricide et la haine gratuite, Sinat Rinam. Lorsqu'on parle de guerre fratricide, on a souvent tendance à considérer qu'il s'agit d'une guerre interne. Mais en fait, il est possible d'élargir car nous sommes tous frères en humanité. Et c'est donc de notre rapport à l'autre, à autrui, dont il s'agit lorsque l'on parle de guerre fratricide. En ce sens, les récents événements qui se sont produits à Sdetéman, maltraitance de prisonniers gazaouis, incident lors de l'interpellation de soldats soupçonnés d'être responsables de ces actes, sont-ils des événements anodins ou bien l'un des indicateurs de l'état de la société israélienne ? Ces événements, que nous apprennent-ils sur l'attachement de la société israélienne à l'éthique juive, sur la persistance de sa capacité compassionnelle à l'égard d'autrui, fût-il l'ennemi ? Ces événements, et d'autres encore, expriment-ils une brutalisation croissante de la société israélienne à l'égard de l'étranger et par ruissellement en interne au sein même de la société israélienne ? Pour parler de ces questions, j'ai le plaisir d'avoir en ligne, en direct d'Israël, Madame la rabbine Nava Chefetz, que je remercie de nous consacrer un peu de son temps ce jour sans doute particulier pour elle. Nava a été durant de longues années directrice éducative et interconfessionnelle de l'ONG Rabbin pour les droits humains. Elle a encore bien d'autres titres, mais je voudrais juste mentionner qu'elle est la fondatrice et l'initiative de GEOM, Geopolitics and Religion Encounters in the Middle East, que l'on pourrait traduire par géopolitique et rencontres religieuses au Moyen-Orient. Et donc ma première question en fait sera double. Pouvez-vous en quelques mots nous préciser plus concrètement ce qu'est GEOM et puis dans un second temps nous rappeler qu'est-ce que cette affaire de Sdetéman ?
Bonjour Ilan. Je voudrais juste, pour ma part, dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une sinat rinam, une haine gratuite. La haine, c'est la haine. Et peu importe si elle est portée sur notre peuple ou bien si elle est portée sur les humains, quels qu'ils soient, où ils soient. Donc la sinat rinam, moi, je ne l'accepte pas. Il y a sinat, il y a la haine, et la haine provoque la destruction. Alors que pour moi, l'amour provoque ou amène à la construction. Ça, c'était pour Tisha B'Av. Géon, en fait, moi, ce que j'ai remarqué à travers les années que je travaille, c'est que la plupart des gens, et en particulier les politiques, les preneurs de décision, ne comprennent pas exactement la situation du conflit dans les territoires occupés. Et donc, ce que je fais depuis 2 ans, c'est que je prends des politiques, je prends des demandeurs, des gens qui décident, en fait, des décisionnaires, voilà. Et je les fais rencontrer avec, pas les Palestiniens professionnels, ce qu'on appelle, comme on a dans le camp de la paix, les représentants professionnels qui ont fait une profession de la paix, de la recherche, de la quête de la paix. Mais moi, je les fais rencontrer avec les gens dans les villages, expliquer l'impact des terroristes israéliens qui sont dans les avant-postes Moi, je les appelle les terroristes parce qu'il n'y a pas d'autre terme pour moi. C'est pas les jeunes des avant-postes. C'est depuis longtemps, ce sont des milices qui sont bien entraînées. On sait exactement qui les entraîne. Pour expliquer en fait l'impact justement sur la vie quotidienne des centaines de milliers de Palestiniens, que ce soit au nord des territoires ou au sud des territoires. Donc ça, c'est plus ou moins Jérémy. Et de montrer en fait qu'à la base du conflit israélo-palestinien, il y a aussi un élément religieux. C'est-à-dire les colons ne sont pas là-bas parce qu'ils veulent avoir encore de la terre. C'est parce que au niveau religieux, ils pensent, c'est leur point de vue, qu'ils doivent être là-bas, qu'ils doivent retourner vers la terre de leurs ancêtres. Et de l'autre côté, nous avons aussi parmi les musulmans une même tendance.
D'accord.
Ça c'est au niveau de Jérémy. Maintenant.
Alors, Sdeteman, maintenant.
Sdeteman, ok. Maintenant, je pense, je n'ai pas encore des preuves, je pense que ce n'est pas la première ni la dernière, le dernier événement, Sdeteman. Sdeteman, c'est parce qu'ils ont filmé et que tout ce qui a été filmé est rendu public, si vous voulez. Mais le problème, c'est d'une part le fait qu'après le 7 octobre, on a reformé une unité qui s'appelle la Force 100, qui est composée des anciens de cette force. Cette force avait été créée à l'époque de l'intifada, la deuxième intifada en 2000-2001. Et là, en fait, c'est une force d'élite qui est chargé de lutter contre le terrorisme. Et après le 7 octobre, cette unité a été reformée avec les anciens, si vous voulez, de la Force 100, et on a commencé à former de nouveaux, on a recruté et on a formé de nouveaux gens qui sont actuellement, ils font partie de cette force 100.
Est-ce que c'est une unité combattante ou c'est une unité qui est seulement chargée de garder des prisonniers?
Non, c'est une unité combattante.
D'accord.
C'est une unité combattante qui combat en fait le terrorisme dans notre région. Mais... C'est une force qui a été mise à Sdeteman, et pas seulement à Sdeteman, mais à Sdeteman et à Betlid et probablement dans d'autres endroits que nous, on n'est pas encore au courant.
Pour préciser à nos auditeurs qui ne sont pas au courant, Sdeteman est le nom d'une prison dans laquelle sont emprisonnés un certain nombre de Gazaouis qui ont été prisonniers.
C'est pas des civils.
Les combattants du Hamas qui ont été prisonniers à Gaza.
Voilà. Maintenant, il y en a quelques milliers. C'est pas 100, c'est pas 200. Il y en a quelques milliers qui sont dans plusieurs prisons en Israël. Et d'ailleurs, les émeutes qui ont eu lieu dans deux endroits. C'est à Sdeteman et à Betlid. Et Betlid, c'est aussi une prison où sont emprisonnés les combattants du Hamas. Ce que je trouve qui est vraiment dangereux et qui risque, si vous voulez, d'avoir une escalade, c'est le fait que des membres du Parlement israélien ont forcé les portails, le portail et les grilles de Sdeteman et de Betlid. Et en fait, ils ont abandonné en fait la loi, ils n'ont pas respecté la loi, et alors que ce n'est pas à eux de décider, c'est au juge, c'est à la Cour suprême, de décider et de vérifier et d'enquêter, c'est à l'armée d'enquêter tout d'abord, si vraiment il y a eu abus de ces membres de la Nourba ou non. Et là, pour eux, c'est la vengeance, c'est primordial. Et là, en tant que rabbin, je vous parle, c'est la vengeance n'est pas aux êtres humains.
Alors, il y a un code éthique.
C'est un code éthique. Si le Hamas transgresse ce code éthique, moi, je ne dois pas faire la même chose. Moi, je dois respecter la loi. Ces gens, même s'ils sont nos ennemis, je dois leur permettre d'avoir un jugement juste.
Et ça serait donc une des particularités des Juifs en tant que tels, parce qu'on peut remarquer que dans toute situation de guerre, ce type de comportement de maltraitance, c'est-à-dire les guerres de prisonniers, voire de torture, c'est pas quelque chose d'anormal, entre guillemets, qui ne se produit jamais. Les Américains l'ont fait à Guantanamo. On se souvient pour la France de ce qui s'est passé en Algérie pendant la guerre d'Algérie.
Voilà.
En Bretagne avec l'IRA. Donc, bien sûr, c'est répréhensible, mais c'est à la fois répréhensible, mais n'est-ce pas aussi compréhensible dans un climat et dans un contexte de guerre, pour se faire un
pour
peu l'avocat du diable.
Pour moi, non, absolument pas. Je prône pour la prise de conscience humaniste et on est dans un état où il y a une loi. Donc, si le Hamas peut se permettre de faire ça, si les Américains... Moi, je regarde ce qui se passe dans la société israélienne. Et le fait de transgresser cette loi, ça risque d'escalader à des événements beaucoup, beaucoup plus durs. Donc, il faut arrêter ça immédiatement. Et le fait qu'il y a des membres de la Knesset qui prônent la suprématie juive, qui font ça, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas les fondements démocratiques et la loi de l'État d'Israël. Et pour moi, ces gens-là doivent, on doit leur arrêter leur immunité parlementaire et il faut les mettre il faut les juger. Parce que ce sont les mêmes personnes qui, le 7 octobre, au lieu que l'unité qui protège les kibboutzim autour de Gaza, qu'ils restent là-bas, sont partis, on les a enlevés de là-bas, on les a emmenés à Hawara pour protéger une cabane, parce que c'était Sukkot, de ces mêmes membres de Ben Gvir et de Smotrich. Les deux membres de la Knesset qui font leur loi.
Juste pour revenir sur la question de l'éthique juive, qu'est-ce que l'éthique nous dit s'agissant du traitement que l'on doit réserver à un prisonnier?
Alors, dans la tradition juive, on dit quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas de sa défaite. Et l'être humain, dans l'éthique juive, l'humanité, l'être humain, a été créé à l'image de Dieu. Donc, on ne peut pas, il y a tout un midrash qui dit « Quiconque détruit une âme, c'est comme si qu'il a détruit tout un monde. » Même si c'est ton ennemi, ton ennemi est un être humain, lui, il peut faire ce qu'il veut, mais nous, d'après notre éthique, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de tuer des femmes, on n'a pas le droit de tuer des enfants. Toute la population civile qui n'est pas engagée dans la guerre, c'est complexe, ça c'est certain, c'est compliqué. Mais si on ne peut pas assurer la vie des femmes, des enfants, des vieux et des personnes avec des besoins spéciaux, on ne rentre pas en guerre.
Alors, quelle a été la position de l'establishment religieux, des leaders religieux à l'égard de ces incidents, et c'est-à-dire à la fois les actes de maltraitance et les réactions d'un certain nombre d'élus qui émanent aussi des courants religieux, puisque Smotrich fait partie du mouvement qui s'appelle sionisme religieux.
Voilà. Eh bien, ces gens-là, pour eux, c'est comme l'affaire de Elor Azaria à Hebron. Pour eux, c'est normal. Ces gens-là ont brûlé des gens, ils ont brûlé des kibbutzim, ils ont torturé. Il y a des otages. Il y a des otages qui sont dans les tunnels à Gaza. L'éthique, mon éthique à moi, l'éthique des gens, des rabbins libéraux, des rabbins massortis, c'est qu'il faut, on ne peut pas faire des actes d'abus envers des prisonniers. Ça, c'est d'une part. D'autre part, Israël, qui se dit un État démocratique, qui a signé certains traités universels, internationaux, okay, elle ne peut pas faire cela. Elle doit juger, elle doit enquêter à fond ce qui s'est passé. Et si les gens sont coupables, eh ben, ils payeront le prix, ils iront en prison. De la même manière que Elor Azaria, qui a tiré sur un Palestinien qui était déjà sans, il était déjà mort, il a retiré sur lui, il a passé quelques bons mois en tôle. Voilà. La même chose ici. Il faut arrêter ça parce que sinon, l'image de l'État d'Israël, qui est déjà, comme vous le savez, elle est au-dessous du zéro, elle va se détériorer encore plus. On ne veut pas être comme des animaux. Ce que Leibovitch, le grand prophète, qui disait après la guerre des six jours, « It Bahamut », je ne sais pas comment on dit ça en français, mais… Et la société va devenir comme des bêtes, féroces.
Du bétail.
Voilà.
Oui.
Et ça, il faut absolument arrêter ça et tout de suite.
Alors, pour nos auditeurs, Leibovitch est plutôt un grand penseur juif qu'un prophète. C'est pas le prophète Élie ni le prophète Jérémie.
Non, mais je dis prophète.
Oui, non, j'ai bien compris.
C'est quelqu'un qui a vu. Qui a vu ce qui allait se passer si on ne rend pas les territoires et on domine 2 millions, 3 millions, 4 millions de Palestiniens. Maintenant, personne n'en parle. On parle de ce Tzedeman qui est un acte, mais personne, depuis le 7 octobre, ne parle pas de ce qui se passe dans les territoires occupés, avec quelques centaines de Palestiniens qui ont été tués, avec ces jeunes milices. Qui rentrent dans les villages, qui mettent le feu aux voitures, qui mettent le feu à des arbres, qui attaquent les Palestiniens. Personne n'en parle de ça. Alors oui, c'est vraiment un événement unique, le Sdéteman et Betlid. Mais ces actes, ils se passent presque chaque jour dans les territoires occupés.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lien ou un débordement, je dirais, de cette violence à l'égard des Palestiniens pour devenir une violence aussi au sein du peuple juif par rapport à ceux qui ne pensent pas comme vous, par rapport à ceux qui sont vos adversaires, la façon dont le débat public se déroule en Israël, voire le respect de la loi, de même qu'on ne respecte pas la loi à l'égard de ces prisonniers, on ne respecte pas la loi dès lors qu'on rentre de force dans une base militaire qui est un terrain interdit aux civils.
Et donc, exactement.
Il y a une espèce d'élargissement, de glissement. On commence par ne pas respecter, à mépriser l'autre qui est l'étranger. Et ce mépris et ce non-respect un peu se ruissellent à l'égard même de la société israélienne, alors que dans un premier temps, elle concerne ceux qui lui sont extérieurs.
Vous savez, quand je militais dans Shalom Arshav, dans la paix maintenant, tout en étant étudiante, et avant-hier, on disait toujours la violence ne va pas s'arrêter chez les Palestiniens. La violence, va petit à petit rentrer à l'intérieur du pays. Et ça fait déjà presque 5 ans que nous voyons que justement la violence, elle ne s'arrête pas dans les territoires occupés. Voyez ce qui se passe dans les manifestations. La police, qui est aujourd'hui des milices de Ben-Gvir, qui attaque sans raison, qui est très, très forte. Une chose. Deuxièmement, nous, on a été attaqués à plusieurs reprises quand on était dans les territoires. Nous avons un rabbin de 80 ans qui a été aider les Palestiniens à accueillir les olives. Les oliviers.
Qui a été blessé à la tête.
Et cassé le bras. Donc, ça ne s'arrête pas. La violence, elle n'a pas de frontières. Petit à petit, ça rentre dans... C'est comme un fleuve. Le fleuve, on ne peut pas l'arrêter. Et la violence, c'est la même chose.
Comment expliquer que dans le monde religieux, parce qu'une partie du monde religieux, bon, il y a une partie extrémiste avec Smotrich, suprémaciste, mais la majorité du monde religieux n'est pas aussi extrême que cette minorité-là violente. Comment se fait-il qu'on ne l'entend pas, enfin les leaders, on ne les entend pas dans ces questions-là.
Tout d'abord, on entend, par exemple, le rabbin Lau, Benny Lau, qui est un rabbin orthodoxe, vraiment très connu en Israël, s'est prononcé. Nous, les rabbins, tous les rabbins libéraux, on s'est prononcé. Il y a des rabbins orthodoxes qui se sont prononcés, mais ça n'arrive pas en France, ça reste ici en Israël. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils ont dit, comment ça... Même les médias en Israël n'ont pas apporté cette voix. Écoutez, on essaye ici en Israël de vraiment d'éteindre cette voix humaniste, mais ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas parce que nous aussi, on a une foi qui est très, très, très forte. Et donc, on lutte, on continue à lutter. Chaque semaine, chaque jour, chaque heure, on continue à lutter. Donc, on entend ces voix. On entend ces voix, mais elles ne sont pas mises en valeur. Parce que quand il y a du sang, ça se filme mieux que quand on a une manifestation pacifiste avec des rabbins qui disent que c'est contraire à l'humanisme juif.
Tout à fait. Mais on sait qu'il y a des modes de communication qui sont internes, je dirais, à la communauté religieuse, qui ont leurs propres journaux, qu'il y a des informations qui sont données ou des sermons qui sont prononcés par les rabbins dans les synagogues, il y a des affiches qui sont collées sur les murs dans les quartiers religieux. Pourquoi cette thématique-là est, semble-t-il, assez peu mentionnée par ces moyens de communication qui sont différents, effectivement, de la grande presse, des grands médias qui s'intéressent assez peu à ces questions-là et au monde religieux. Mais au sein même de la communauté religieuse, il y a d'autres moyens de communication, peut-être, qui permettraient de faire plus entendre davantage ce point de vue, plus libéral, plus ouvert, je dirais, plus juif même d'une certaine façon.
Vous parlez de la communauté religieuse comme si que c'était un bloc. Il n'y a pas une communauté religieuse, il y a beaucoup de communautés religieuses. Alors, les ultra-orthodoxes, ils s'alignent avec Ben-Gvir. Les religieux nationalistes, ils s'alignent avec Smotrich. Donc, ce qui reste, et en Israël, quand vous savez, les mouvements libéraux ne sont pas la majorité.
Oui, tout à fait.
Donc, nous, on fait ce qu'on peut. Par exemple, chaque sortie de Shabbat, nous faisons une cérémonie avec des milliers, des milliers, des milliers de gens à Kaplan, à Jérusalem, un peu partout. Mais les médias, elles ne montrent pas ça. Elles nous sont contre. Et on écrit des sermons contre. Contre. Donc il y a ici une lutte interne, si vous voulez, entre les différents groupes, religieux et les laïcs qui se joignent bien sûr à nous, ils se joignent aux libéraux.
Ben, on ne peut qu'espérer, notre temps se rapproche de la fin et nous devons en rester là. On ne peut qu'espérer que votre courant soit davantage entendu, aussi bien en Israël qu'à l'étranger, ou dans un certain nombre de communautés, c'est effectivement les courants suprémacistes qui sont les plus audibles. Vous souhaitez bonne chance et plein succès dans votre travail et espérez qu'en cette journée de Tisha B'Av, qui est un moment de réflexion, d'analyse et de retour sur soi, nous faisions tous ce travail pour aboutir à un judaïsme qui soit plus ouvert et plus tolérant.
Ilan, je voulais juste dire une chose. Le 23 septembre, je fais partie aujourd'hui aussi des guerrières de la paix qui se trouvent en France. Et le 23 septembre, nous allons faire une très grande conférence à Paris, un call pour la paix. Un appel pour la paix avec des activistes palestiniens et des activistes israéliens. Il y aura l'ex-ministre de la culture de l'autorité palestinienne qui vient de Gaza. Il y aura Maoz Eilon qui a perdu ses parents le 7 octobre. Oui. Il y aura Aziz Abou Sara qui a perdu aussi son frère. Donc, on invite bien sûr tout le monde à venir participer.
Je suis au courant et nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler puisque nous travaillons et nous connaissons bien les guerrières de la paix. Donc, en temps voulu, nous reviendrons sur cette manifestation, cet événement prévu le 23 septembre. Il ne me reste qu'à vous remercier, à souhaiter une bonne réflexion à tous les auditeurs de Radio Shalom et à leur dire au revoir et à 15 jours pour une prochaine émission de Chronique pour la paix.